13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et c'est donc parti pour un mois de football. Coup d'envoi de l'Euro hier soir à Rome. Un Euro qui va se dérouler dans 11 villes de Munich à Bakou. Une première, mais aussi un vrai casse-tête pour se déplacer avec la crise sanitaire. C'est ce que nous raconteront Cyril de la Morinerie et Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Direction ensuite Toulouse avec Benjamin Peter. Le plus grand vaccinodrome de France recrute à tour de bras, notamment des étudiants très touchés par la crise sanitaire. C'est même devenu le job d'été le plus prisé. Gros plan sur les EHPAD avec Victor Dolande, des établissements qui veulent se réinventer pour restaurer la confiance avec les familles après l'épidémie. Et puis l'heure est au déconfinement à travers toute l'Europe à l'approche des vacances d'été. L'Espagne ouvre grand ses portes pour accueillir les touristes, nous expliquera Henri de Laguérie. Est-ce que la mise en place du pass sanitaire va faciliter les choses? Pas simple, nous dira notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Enfin, après le match de folie hier soir entre Nadal et Djokovic à Roland-Garros, dernière ligne droite sur la terre battue, nous serons côté coulisses avec Johanna Chabas. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc parti pour un mois de football. Le coup d'envoi de l'Euro a donc été donné hier soir à Rome avec l'Italie qui s'est imposée 3-0 face à la Turquie. Pour le plus grand bonheur des Italiens, heureux cette semaine de retrouver du monde dans les stades.
C'est une, cosa molto buona,
c'est une bonne chose de retrouver du public dans les stades, de voir que les choses reprennent leur cours. Moi, je suis content. Le stade me manque. Ça fait un an et demi que je n'y suis pas allé.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Journaliste au service des sports d'Europe 1. Depuis Rome, vous allez nous faire vivre 7 euros pendant un mois sur l'antenne avec Jean-François Pérez et Cyril de la Morinerie, qu'on va retrouver dans un instant. Eux vont suivre plus particulièrement les Bleus. Vous, votre mission, c'est quoi?
Alors, outre le match d'ouverture d'hier soir, eh bien moi, ce sera de suivre les adversaires des Bleus. Voilà pourquoi je vais m'envoler pour Budapest là ce soir, pour suivre la Hongrie et le Portugal qui joueront l'un contre l'autre mardi. Et puis ensuite, l'Allemagne et le Portugal qui s'affronteront. Ça, ce sera du côté de Munich. Donc, je vais bouger un petit peu, moi aussi, pour suivre les adversaires de l'équipe de France.
Et donc, votre première destination, c'était donc Rome. Vous avez débarqué mercredi. Dans quelle atmosphère ?
Alors, atmosphère un peu étrange, une atmosphère assez étonnante avec un mélange de crainte de la part des Italiens de voir arriver beaucoup de monde et en même temps soulagement de voir que les contrôles sont un petit peu moins stricts concernant le point de vue sanitaire et puis de voir aussi quand même le football reprendre ses droits, la fête qui va commencer. Donc il y a vraiment cet entre-deux, ce clair-obscur.
Eh bien, on va écouter justement un extrait de votre reportage, c'était jeudi matin sur l'antenne d'Europe 1.
La première chose qui marque en arrivant à Rome, c'est l'absence de contrôle sanitaire. Personne ne vérifie la température, ni les attestations, ni même les tests pourtant demandés en amont. Un relâchement général visible en centre-ville. Martha est commerçante et elle a remarqué qu'avec l'arrivée de l'euro, la vigilance Covid est moins forte. Par rapport au début de la pandémie, ça n'a plus rien à voir, témoigne-t-elle. Mais quand il s'agit de foot ici, on est prêt à tout. On met un écran géant sur la place du public dans les stades et c'est comme ça. Ça va faire du bien à l'économie, même si sur le plan du Covid, je ne sais pas ce qui se passera. On l'aura compris, Rome veut profiter de l'euro pour respirer, pouvoir retourner au stade. Depuis avant-hier, le couvre-feu a été repoussé jusqu'à minuit.
Voilà, donc match d'ouverture, on le disait hier soir à Rome. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est pas du tout parce que l'Italie est le pays organisateur. La particularité de cet euro qui paraît dingue, surtout avec cette pandémie qui s'est invitée et qui n'était pas prévue, c'est que cet euro va se jouer dans 11 pays. Quelle drôle d'idée!
Oui, une idée qui a germé en fait dans le cerveau de Michel Platini pour les 60 ans de l'euro en 2020. Souhaiter non pas un pays organisateur comme c'est la coutume, mais plusieurs pays. À la base, ça devait même être 12 pays organisateurs. Et cette idée faire partager le foot à travers toute l'Europe, de Bakou en Azerbaïdjan jusqu'à Glasgow en Écosse. Bakou, c'est très loin. Alors, à l'époque, on avait quand même aussi l'idée de réduire les coûts. Ça coûte très cher pour un pays qui n'a pas forcément les infrastructures, non seulement de construire des stades, mais aussi des accès routiers, autoroutiers. Donc on s'était dit, on va un petit peu répartir les coûts dans plusieurs pays. Bon, depuis, on a aussi des préoccupations environnementales qui, à l'époque, étaient moins fortes avec tous les avions qui vont être nécessaires pour voyager d'un point à l'autre.
On imagine le bilan carbone, effectivement. Alors, cette décision, je le disais, a été prise hors contexte crise sanitaire. Qui s'est invité depuis, ça a dû être un vrai casse-tête à organiser. Il y a même des villes, vous m'avez dit, qui ont renoncé à accueillir des matchs à cause des exigences de l'UEFA.
Oui, il faut savoir que l'UEFA a sonné hein, tous les maires des grandes villes organisatrices, a négocié avec les gouvernements, en mettant même la pression très fortement, en disant, écoutez, c'est très simple, soit vous acceptez d'accueillir un minimum de public, soit on organise l'euro ailleurs que chez vous. Et donc, résultat, 12 pays initialement prévus, mais l'Irlande a dû abandonner, puisque l'Irlande refusait d'accueillir du public. Problématique également du côté de Bilbao, qui n'a pas pu accueillir du public, et c'est finalement Séville qui va la remplacer, parce que l'Andalousie, la région, avait des restrictions Covid un peu légères. Les matchs de Dublin, ils ont été délocalisés du côté de Saint-Pétersbourg.
Voilà, en revanche, en Hongrie, justement pour l'équipe de France, le stade va être plein, au point d'ailleurs d'inquiéter sur le risque sanitaire que ça peut faire courir.
Oui, parce que chaque stade a une jauge. Hein. Donc, par exemple, à Rome, hier soir, on avait 16 000 spectateurs. C'est à peu près 22% de la capacité totale du stade. Mais effectivement, en Hongrie, 100%. Le stade sera plein. Donc, c'est 67-68 000 spectateurs.
Là, ce n'est pas l'UEFA qui a la main sur la jauge. C'est chaque ville qui décide où est-à, en tout cas.
Qui décide absolument. L'UEFA fixe, on va dire, le seuil minimal. Mais après, libre aux villes de monter le curseur comme elles veulent. Et en l'occurrence, 100% à Budapest. 68 000 personnes dans un stade. On sait très bien que les supporters vont enlever le masque. On va crier. Écoutez d'ailleurs hein, l'avis d'un spécialiste, l'infectiologue Benjamin Davido, qui travaille à l'hôpital de Garches.
La particularité de ces événements sportifs internationaux, c'est justement un brassage des populations et donc des variants. Si on n'est pas masqué, qu'il y a des situations où on a envie, dans un moment d'émotion, de se retrouver, de s'embrasser, de s'accoler. On crie, on chante, il y a des chants de supporters. Tout ceci fait, et on le sait, la transmission du virus, elle est plus importante selon le nombre de décibels et selon la durée du contact. Et donc, encore une fois, même si on a 20 fois moins de risque de se contaminer en extérieur qu'en intérieur, le risque existe, il est juste minoré.
Alors, je le disais, casse-tête d'organisation à cause de la crise sanitaire, j'imagine pour vous aussi, pour voyager.
Ah bah là, on est en train de tester l'Europe d'avant le pass sanitaire, on va dire, puisque chaque pays, en fait, fixe aussi bien pour les supporters que pour les journalistes les conditions d'entrée dans son territoire. Donc, les Italiens vont demander un test antigénique de moins de 48 heures, mais les Hongrois demandent, eux, deux tests PCR sur les 5 derniers jours. Les Allemands demandent à ce qu'on fasse tout un dossier pour avoir une lettre d'exemption de quarantaine. Maintenant, ce qui va être intéressant à observer, c'est est-ce que toutes les démarches qu'on réalise sont bien vérifier, surveiller, parce que là, on l'a vu, on l'a entendu dans le reportage que j'avais fait à Rome, aucun contrôle. Il faut savoir qu'après, l'accès dans les stades, c'est encore autre chose. Là, l'UEFA conseille des tests, mais ne va sans doute pas vérifier si chacun est vacciné.
Il n'y aura pas un QR code.
Non, pour l'instant, c'est pas du tout le chemin qu'on prend, en tout cas.
Merci beaucoup, Simon Rubin, et je salue Cyril de la Morinerie qui nous a rejoint. Bonjour Cyril.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Votre mission, je le disais, pour vous, c'est suivre les Bleus. Est-ce que comme Simon, justement, ça veut dire un casse-tête en perspective pour voyager? Parce que je crois qu'en ligne de mire, vous avez déjà la Russie, si les Français vont plus loin que les premiers tours. Et on leur souhaite, évidemment.
Ben oui, c'est un vrai casse-tête. On dépense plus d'énergie dans la paperasse que dans la couverture de l'euro, et notamment pour aller à la recherche de l'information. Alors effectivement, je me suis rendu à l'ambassade de Russie parce qu'il faut aussi prévoir les matchs après le premier tour. Et donc, si la France termine en tête de son groupe, les Bleus iront à Bucarest. Et ensuite, s'ils passent donc les huitièmes de finale, le quart de finale se déroulera à Saint-Pétersbourg. Et donc, il faut un visa. Tous les jours, on a des informations qui sont différentes, donc on s'arrache les cheveux.
On va marquer une pause. Je salue de nouveau Simon Rubin. Vous pouvez vous saluer d'ailleurs, hein, profiter, puisque vous êtes, vous allez effectivement vivre l'euro chacun à distance.
Et oui, hein. On a vécu ensemble la Coupe du Monde 2018 qui restera, je pense, pour nous deux un très très grand moment. Et
on va voir si c'est bien notre duo qui avait porté chance aux Bleus jusqu'à la Coupe du Monde.
Ben
ou est-ce que c'est le duo Pérez-Morinerie qui va prendre le relais?
Voilà. Merci beaucoup Simon. On marque une pause. Vous restez avec moi, Cyril de la Morinerie. Et puis on va parler des Bleus, puisque vous allez être, j'ai envie de dire, à leur contact, normalement, entre guillemets, évidemment, crise sanitaire oblige, durant toute la compétition.
Fabienne Lemoelle sur Europe 1.
Et on poursuit cette séquence sur l'Euro 2022, dont le coup d'envoi a été donné hier avec, on le disait, ce match d'ouverture à Rome. Avec moi, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Cyril, on l'a dit, votre mission, c'est donc de suivre les Bleus. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours, là, que votre camp de base, c'est Clairefontaine.
Oui, tous les jours, je me rends à Clairefontaine pour assister aux conférences de presse, aux entraînements, comme lors des autres compétitions. Hein, avant l'Euro, je me rendais à Clairefontaine. Là, avant la Coupe du Monde aussi, l'Euro 2016, Coupe du Monde 2018, je me rends effectivement à Clairefontaine. Mais ça a un petit peu changé.
C'est-à-dire les Bleus sont véritablement dans une bulle sanitaire, c'est ça?
Oui, c'est une bulle presque fermée. C'est-à-dire que là, pour ces entraînements, on nous met dans la tribune la plus éloignée. Plus d'entretiens individuels vraiment face à face. Il y a soit un plexiglas, soit nous, avec Jean-François Pérez, eh bien, on a été mis dans une pièce isolée pour recevoir notamment Didier Deschamps, qui était l'invité de la matinale, ou Guy Stéphan, avec des portraits de joueurs que vous retrouvez tous les jours dans le journal de l'Euro à 8h30. Et il faut que les accréditations, en fait, elles sont jour par jour pour pouvoir rentrer à Clairefontaine.
Alors, ça veut dire aussi les conférences de presse en visio avec forcément les inévitables bugs. Exemple.
Donc la première visioconférence de presse de la préparation avec Didier Deschamps. Donc on vous levez la main virtuellement sur le logiciel et je vous donne la parole. La première question.
Bonjour Didier. Bonjour Didier.
Bon voilà, on lève la main. Quelques minutes plus tard, c'est vous qui avez levé la main, Cyril de la Morinerie.
Question de Cyril de la Morinerie, d'Europe 1.
Micro.
Donc on va passer une question d'Alexandre Carré, puis on reviendra vers Cyril ensuite.
Ça marche, ça marche, pardon.
Sauvé.
Parce que je pouvais pas appuyer dessus. Bon.
Bon, allez, vous me pardonnez, hein, Cyril. Je crois que Bertrand Chameroy, d'ailleurs, ne s'en est pas privé dans l'émission de Philippe Vandel.
Qui aime bien, taquine bien.
Un commentaire, quand même, j'imagine que c'est pas évident, effectivement, ces confs de presse à distance. Hein.
Bah non, c'est pas évident, parce que là, en l'occurrence, vous avez une espèce de main virtuelle, vous appuyez, et puis vous savez jamais quand vous allez avoir la parole. Alors que lorsque vous êtes en vrai, face à face, en conférence de presse, vous levez la main, vous voyez bien quand le micro vous arrive, vous pouvez regarder un peu les à côté, vous pouvez décrire la scène, il y a une interaction avec le joueur. Là, c'est totalement artificiel, si je puis dire. Et c'est ça qui va être difficile, parce qu'on va avoir ce régime-là pendant presque tout l'Euro.
Oui, parce que ce que vous m'avez expliqué, c'est que pendant la compétition, en revanche, règle de l'UEFA, fini les confs de presse face aux joueurs et aux entraîneurs, ça va être de la visio à 100%.
Voilà, visio à 100%, avant et après match. Ça, c'est le régime officiel. Mais nous allons avoir, et ça, c'est vraiment le plus aussi, et on vous encourage à suivre Europe 1 pour cela. La radio a décidé d'avoir une position spéciale, qui est la flash interview, ce qu'on avait eu aussi à la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire que après le match, nous aurons Didier Deschamps et quelques joueurs qui viendront à notre micro en direct pour débriefer la rencontre. Europe 1 est la radiodiffuseur officielle donc de l'UEFA Euro 2020 et notamment à ce titre, on va pouvoir avoir un véritable plus avec ces interviews. Mais à part ça, ce sera évidemment de la visio. On espère, mais je pense que ça sera impossible, pouvoir notamment, lorsqu'il va y avoir cette période en Hongrie à Budapest, ils vont rester une semaine et ils vont s'installer dans un camp d'entraînement un peu à l'extérieur de Budapest, pouvoir aller sur place pour voir les entraînements. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin.
Voilà, alors on va écouter justement ce que disait Didier Deschamps à Jean-François Pérez cette semaine dans l'interview de 7h40 à propos de cette bulle sanitaire qu'il faut bien installer et de l'impossibilité quasiment de voir quelqu'un à l'extérieur.
La bulle sanitaire et les fortes préconisations de l'instance de l'UEFA aujourd'hui, oui, ça augmente les difficultés sur le plan humain, même si les amis, la famille pourront être dans les stades, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est le problème de toutes les sélections aussi. Humainement, évidemment, il y avait des coupures pendant la préparation, j'en faisais toujours une.
C'est pour ça, ouais.
Aujourd'hui, on devrait y être. C'est pas le cas, donc les joueurs le savent, ils prennent sur eux et on n'a pas le choix de toute façon. Mais humainement, c'est jamais, parce que c'est du H24 et d'avoir un peu d'oxygène, c'est valable pour les joueurs, mais c'est valable pour moi et le staff aussi. Hein. C'est des moments dont on a besoin, mais on les aura pas.
Bon, voilà pour la parole, j'ai envie de dire, officielle du sélectionneur. En off, ils le vivent bien, ce H24, les Bleus. C'est important, oui. S'ils veulent aller au bout. Et surtout qu'en plus, il y a cette recrue dont on a beaucoup parlé, Karim Benzema.
Oui. Alors, ils le vivent très bien pour le moment. Ce qu'il va falloir voir, c'est sur la durée. Parce que Didier Deschamps le disait, avant le Covid, lors des compétitions, vous aviez deux coupures famille. Une coupure avant le début de la compétition et une coupure pendant la compétition. Et ça permet de recharger les batteries, et notamment pour le staff. Là, ils sont H24, donc ensemble. Là, pour le moment, il y a des sourires parce que ça se passe bien. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Parce que l'intégration de Karim Benzema se déroule de la très bonne façon. Ils sont heureux, globalement, d'avoir un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions. Maintenant, il va falloir voir sur la durée, parce qu'on a bien vu lors du dernier match, Olivier Giroud a marqué 2 buts. Il y a eu une petite crispation sur une interview qu'il a donnée, Olivier Giroud, à nos confrères de l'équipe, en disant qu'il n'avait pas assez de ballons. Donc, il visait indirectement Kylian Mbappé. Donc, est-ce qu'il va y avoir des tensions ? En sachant qu'Antoine Griezmann le rappelle chez nos confrères de l'équipe, que la Coupe du Monde 2018, elle a été remportée notamment grâce à la bonne ambiance qu'il y avait dans le groupe. Et ça sera vraiment un élément clé.
Effectivement, merci beaucoup Cyril de la Morinerie. On vous retrouvera avec Simon Rubin, Jean-François Parès, pendant tout ce mois avec plein de rendez-vous. Hein, vous l'avez dit, le journal de l'Euro tous les matins à 8h40 et puis évidemment tous les soirs avec Lionel Rousseau. Merci beaucoup.
Merci Fabienne.
Europe 1. Direction Toulouse dans un instant avec le plus grand vaccinodrome de France qui recrute à tour de bras des étudiants. C'est même devenu, paraît-il, le job de l'été le plus recherché.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Qui dit accélération de la vaccination dit montée en puissance des vaccinodromes avec des besoins de bras, pas uniquement pour faire des injections comme à Toulouse.
Est-ce qu'il y a des gens dans des filières autres que celles de santé ? Mathématiques, les matheuses, vous êtes où ? Non, parce que je vais avoir besoin de vous.
Le docteur Julie Houdet fait l'appel face à un amphi de 220 étudiants, les piou-piou comme on les appelle. Ils se sont inscrits via Twitter à cette formation pour travailler cet été au vaccinodrome.
C'est une formation qui m'intéresse énormément, que ce soit pour vacciner ou pour aider dans la logistique. C'est bon à prendre, voilà.
Bonjour Benjamin Peter.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et correspondant d'Europe 1 en Occitanie, on vient d'entendre un extrait de votre reportage sur une formation mise en place déjà parce que l'un des principaux centres de vaccination, on va dire XXL de Toulouse, est passé à la vitesse supérieure.
Oui, le vaccinodrome avait déjà été le premier en France à ouvrir ses portes fin mars dans le hall 8 du parc des expositions, juste avant celui du Stade de France. Hein, c'est une petite fierté locale. Et cette semaine, il a tout simplement doublé. Ça permet de passer de 24 à 40 lignes de vaccination. Ça veut dire que 5000 rendez-vous sont proposés tous les jours. C'est une logistique qui est considérable, ce qui fait qu'actuellement, Toulouse dispose du plus grand vaccinodrome de France. Et pour ça, il faut du personnel pour vacciner, bien sûr, mais aussi tout simplement pour guider les patients, pour transporter les doses. Le but, c'est justement de faire appel aux étudiants pour ces missions.
Et puis l'autre souci, c'est de renouveler des équipes qui sont en première ligne depuis des semaines.
Oui, c'est en fait ce que m'expliquait le docteur Julie Hudet, qui est cette médecin urgentiste au CHU qui assure ces formations. Faire appel aux étudiants, ça répond à ce premier impératif qui est de permettre au personnel qui travaille déjà dans ces vaccinodromes depuis des mois de se reposer, de prendre des vacances aussi dans les prochains mois.
Bien sûr, il y a des personnels hospitaliers, il y a des pompiers, il y a des associations de secourisme, mais c'est quelque chose qui doit tenir sur la durée, que ces personnels-là, ils sont nécessaires partout ailleurs, là où ils exercent leurs autres missions, et qu'un des dogmes de la médecine catastrophe, c'est de ne pas épuiser non plus son personnel, c'est-à-dire de ne pas les faire revenir sans cesse sur leur repos pour assurer des missions supplémentaires. Les étudiants sont surmotivés, ils ont des compétences propres, et donc, on a décidé de leur proposer d'être recrutés, donc employés, payés, etc., mais préalablement formés pour différentes missions.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'un grand programme de formation a été lancé.
Oui, c'est en fait une demi-journée de formation en amphithéâtre à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Chaque fois, c'est 220 personnes ensemble, pas plus pour respecter les jauges évidemment. Ça dure 5 heures, c'est très dense, mais le docteur Houdet les interpelle. Elle arrive à rendre ça drôle et vivant, c'est un personnage en même temps. Elle les appelle par exemple les Piou-Piou. Le vaccinodrome, c'est d'ailleurs devenu Piou-Piou-Land. Et les étudiants entre eux revendiquent ce terme, et voilà d'ailleurs comment elle les accueille.
Ceux qui ne le savent pas encore, c'est pas du tout un terme condescendant. Je vous invite à regarder le film Les oiseaux d'Hitchcock. Et l'image des piou-piou, c'est ça. C'est les oiseaux contre le Covid. Est-ce qu'il y a des gens qui sont donc dans des filières autres que celles de santé ? Gestion d'entreprise. Les matheux, vous êtes où ? Non, parce que je vais avoir besoin de vous. On va discuter. Vous aurez des missions. Quoi d'autre ? Informatique ? Ouais ? On va parler de vous, les informaticiens aussi. Staps, on va parler beaucoup de vous, les Staps. Vous allez voir, il y a un truc spécial pour vous. On a cité tout le monde ? C'est super varié, en fait. Et ça, c'est une très, très grande richesse. Welcome to Piou-Piou-Land.
Bon, on comprend hein, qu'ils applaudissent parce qu'effectivement, elle met de l'ambiance. Hein. On l'a bien compris, c'est un recrutement très large.
Oui, effectivement, ils ne sont pas uniquement à la recherche d'étudiants en médecine ou d'infirmiers. Et c'est ce qui m'a étonné, moi, quand je suis arrivé sur place. Franchement, je m'attendais à rencontrer que des étudiants en médecine. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait 6 ans de médecine pour transporter des doses du lieu où on les décongèle jusqu'au box où on va les injecter. Pour ça, on a même plutôt besoin de sportifs. On appelle d'ailleurs ces personnels-là des runners. Et pour ça, on cherche, par exemple, plutôt des STAPS.
Bah oui, les même STAPS, chose... c'est la fameuse formation pour devenir professeur de gym. Je dis ça parce que tout le monde n'est pas forcément au courant.
Et même chose pour l'accueil ou l'organisation des patients. Pas besoin forcément de soignants pour ça. Et ils veulent vraiment s'appuyer sur l'ensemble de ces compétences pour que ça tourne le mieux possible.
Et donc, l'idée, c'est de donner du travail aux étudiants, mais aussi de valoriser leurs compétences, d'autant plus qu'ils ont été particulièrement éprouvés hein, par cette crise sanitaire.
Oui, en discutant avec ces étudiants, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qu'ils venaient chercher. Un bon job, bien sûr, qui permet d'être actif, surtout dans cette pandémie, comme me l'expliquait Philémon, qui lui est en informatique.
Je veux travailler cet été, mais là en plus c'est l'occasion de se rendre utile. Mm-hmm. Puis bon, comme le président a pu le dire, bah, nous sommes en guerre et c'est l'occasion d'aller sur le front. Je trouve que c'est une bonne motivation. Quoi. En soi, j'aurais pu faire d'autres jobs, mais puis bon, après aussi d'un point de vue personnel, financier, c'est plutôt bien payé aussi, on ne peut pas le négliger.
Voilà, et lui par exemple, il avait décroché un job étudiant dans une enseigne de sport, il a préféré se faire embaucher au Vaccinodrome. Et d'ailleurs pour le docteur Julie Houdet, mettre à contribution les étudiants, c'était aussi un moyen de répondre à leur détresse financière ou psychique.
On sait que les étudiants sont en souffrance depuis un an. Ils ont leur cours en visio et donc ils sont dans l'isolement social et que ça c'est très difficile à vivre pour eux. Ce sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose d'utile qui est terrible. Et puis bien sûr le fait de pouvoir avoir un petit job pour financer leurs études parce que beaucoup de petits jobs d'étudiants ne sont plus accessibles à cause de la crise. Et comme on leur a dit, la société vous a dit à tort que l'épidémie était la faute de la jeunesse, ce qui est complètement faux. Et, par contre, à Toulouse, on va s'en sortir grâce à la jeunesse.
Voilà, belle solidarité, beau message. Et du coup, c'est devenu le job le plus couru à Toulouse, vous m'avez dit, hein, le job d'été.
Oui, c'est ça, c'est le bon plan qu'on se refile. Hein. Les inscriptions se font uniquement sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. J'ai notamment croisé Martha, qui a 19 ans, elle est en DUT de commerce. Et elle était ravie d'avoir décroché une place in extremis pour cette formation.
La majorité des étudiants, ils connaissent même pas parce que c'est du bouche à oreille. Moi, c'est une amie qui m'en a parlé et après, je me suis connectée sur Twitter. Elle poste des formulaires d'inscription qui sont publiés un peu aléatoirement. On nous dit pas trop quand c'est. Ça nécessite d'avoir le téléphone un peu en permanence. Et après, ben voilà quoi, faut être réactif, faut cliquer. En 3 minutes, c'était bouclé.
Voilà, et grâce à la multiplication de ces formations, ce sont désormais 3000 étudiants toulousains qui sont formés, validés, mobilisables, pour certains même déjà mobilisés dans les halls 7 et 8 du Vaccinodrome pour assurer la vaccination tout l'été.
Merci beaucoup Benjamin Peter pour ce reportage, je dois dire plein d'optimisme. Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
Comment restaurer la confiance avec les familles qui redoutent désormais de placer en EHPAD un de leurs proches depuis la pandémie? Les professionnels du secteur lancent la réflexion.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Gros plan maintenant sur ce qui pourrait être l'EHPAD de demain. Ces établissements, vous vous en souvenez, dont on vous parlait avec Carole Ferry il y a un mois, qui ont été très marqués par la crise sanitaire, près de 40 000 morts depuis mars 2020. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Fabienne.
Pendant cette crise, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises dans ces EHPAD, ces maisons de retraite médicalisées. Vous avez restitué d'ailleurs ce qui s'y passait dans tout terrain. Ces maisons de retraite, je le disais, qui doivent se réinventer pour restaurer notamment la confiance avec les familles qui ont parfois perdu un proches ou qui n'ont pas pu voir les pensionnaires à cause de l'isolement pendant cette période. C'est ce que propose un rapport du think tank Matière Grise qui vient d'être publié. Mais d'abord, Victor, on va voir avec vous comment les résidents perçoivent justement aujourd'hui leur établissement après cette crise.
Oui, et c'est surtout le sentiment d'enfermement, Fabienne, qui les a particulièrement frappés cette année. Au nombre d'œils dus au coronavirus s'est ajouté l'épreuve de l'isolement en chambre. Pour les 600 000 résidents d'EHPAD du pays, un protocole sanitaire très strict les a éloignés de leur famille. Cet isolement, Madeleine, qui vit dans une maison de retraite des Yvelines, l'a particulièrement mal vécu. Pour elle, l'EHPAD de demain devra donner surtout plus de liberté aux personnes âgées.
Les gens arrivent là, ils attendent quoi ? Le déjeuner, après ils dorment et après ils attendent le dîner. Si c'est ça la vie, même s'ils n'en profitent pas parce qu'ils n'ont personne à recevoir, mais qu'ils ne se sentent pas brimés. Je crois que cette impression de liberté, c'est indispensable pour tout humain. Parce que sinon, on attend quoi, la mort ?
Formidable Madeleine, 94 ans, bientôt 95, c'est votre fil rouge, hein, parce qu'on l'a entendu dans Tout Terrain pendant toute cette épidémie, elle va bien, on est content.
Exactement, elle va très bien, on l'avait effectivement suivie au début quand elle s'était fait vacciner en décembre dernier, on avait suivi aussi...
Son envie de retrouver sa famille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants.
De retrouver l'extérieur 2 mois après, quand quasiment tous les résidents des EHPAD étaient vaccinés. Et donc, il m'a semblé un peu naturel de retourner la voir, justement.
Donc là, ce qu'elle souhaite ?
Elle, pour le coup, elle a vraiment envie de faire plein de choses, Madeleine. Elle aimerait aussi pouvoir avoir plus de choix dans les activités du quotidien, rencontrer plus de monde, imaginer davantage de connexions intergénérationnelles. Elle m'en a parlé, notamment avec des visites d'école. Bref. Madeleine veut vraiment avoir l'impression de vivre chez elle tout en étant sécurisée dans un EHPAD.
Et ce sentiment, il est partagé par beaucoup d'autres résidents dans les EHPAD.
Oui, Vanessa Rino est directrice de la résidence Montrepos à Sartrouville, dans les Yvelines, où justement vit Madeleine. Depuis plusieurs semaines maintenant, le protocole sanitaire est largement assoupli, les visites autorisées et sans limite de temps. Pour elle, l'EHPAD de demain devra avant tout s'adapter aux résidents.
C'est déjà difficile pour une personne âgée de laisser son logement et de venir dans un établissement où on va lui fixer des règles. Vous allez manger à telle heure, vous allez dormir à telle heure, vous allez faire telle ou telle activité. Moi, j'aime bien dire que les résidents sont chez eux quand ils sont à Montrepos. C'est à nous de nous adapter aux résidents. C'est pas aux résidents de s'adapter à l'établissement. Nous sommes là pour les accompagner, surtout que, effectivement, ça risque d'être leur dernière demeure. Donc, nous sommes là pour les accompagner et pas du tout pour les priver, pour fermer la porte à clé et leur dire « vous ne sortez pas ».
Elle veut aussi pouvoir faire plus de choses avec les résidents, organiser plus d'activités. Bref, elle veut aussi plus de liberté pour l'EHPAD de demain et c'est très important.
Alors justement, l'EHPAD de demain, à quoi pourrait-il ressembler ? Un rapport publié cette semaine par le think tank Matière Grise va justement dans le même sens. Victor, ce rapport dit qu'il ne faut plus parler de résidents pour ces pensionnaires.
Oui, et préférer le terme habitants, qui vivent et imposent leurs propres règles plutôt que de répondre du matin au soir aux exigences de l'établissement. C'est vraiment ce qui se passe actuellement dans tous les EHPAD de France. Les auteurs de ce rapport préconisent notamment que les habitants puissent choisir leur menu, l'horaire des repas et l'heure des visites. Luc Broussy, cofondateur de Matière Grise, à l'origine de ce rapport, esquisse l'EHPAD des années 2030.
L'EHPAD de demain, ça doit être un EHPAD qui est totalement au service du résident qui vient terminer sa vie. C'est un EHPAD qui doit ressembler le plus possible dans ses espaces, dans son architecture, à un domicile, à quelque chose de convivial. Et puis l'EHPAD, ça doit être enfin quelque chose de totalement ouvert sur la cité, sur son quartier, et que ne ce soit pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, des endroits un peu repliés sur eux-mêmes.
Enfin, ce rapport ouvre également la possibilité d'étendre l'EHPAD plateforme, c'est-à-dire que des personnes qui vivent encore à leur domicile pourraient très bien se rendre dans un EHPAD pour y recevoir uniquement des soins ou pratiquer juste des activités culturelles. Autant de pistes, en tout cas, Fabienne, qui pourront servir de base de réflexion pour la réforme sur le grand âge qu'Emmanuel Macron a promis avant la fin de son quinquennat.
Merci beaucoup Victor Delande. Effectivement, je le rappelle, avec Carole Ferry, on parlait de ce lien rompu entre les familles et les EHPAD, avec la peur d'y mettre leurs proches, et même, ce qui paraissait incroyable, les prix qui étaient à la baisse, effectivement, mais qui témoignaient surtout du fait qu'il y avait ce lien absolument à renouer. Merci beaucoup Victor.
Merci à vous Fabienne.
Europe 1. On parlait au début de Tout Terrain du casse-tête pour passer les frontières en Europe avec le début de l'Euro 2022. Est-ce que la mise en place du pass sanitaire va améliorer les choses alors que des pays comme l'Espagne, vous allez l'entendre, ouvrent grand leurs bras aux touristes ?
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
L'heure du déconfinement semble donc avoir sonné à travers toute l'Europe alors que l'été approche pour les vacances. Et parmi les pays qui ouvrent grand leurs portes aux touristes, il y a l'une des destinations préférées des Français, l'Espagne.
J'aime bien partir de chez soi, se changer les idées, pouvoir en fait revoir les gens un peu vivre et avoir du mouvement et voilà, pouvoir profiter des terrasses, plages, le beau temps, le dépaysement, ça fait du bien.
Bon, il n'y a pas les boîtes, mais sinon c'est bien, c'est sympa.
Et quel est votre programme ?
Shopping, détente, resto, bar.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, on voit que les gens ils sont heureux, il y a du soleil et tout est ouvert. Non, vraiment, ça fait plaisir.
Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Fabienne.
Et correspondant d'Europe 1 en Espagne, on vient d'entendre et on les comprend, l'enthousiasme de ces touristes français sur les Ramblas à Barcelone. On pourrait penser d'ailleurs que l'Espagne est le premier pays européen à rouvrir. En fait non, l'Espagne est surtout beaucoup plus offensive dans sa communication.
Oui, c'est vrai. En fait, avant l'Espagne, il y a eu l'Italie et la Grèce qui avaient ouvert leurs portes aux personnes vaccinées. Depuis lundi dernier, c'est donc aussi le cas en Espagne. Mais ici, c'est vrai qu'on accepte tous les vaccins homologués en Europe, mais également les vaccins chinois, par exemple. Et c'est sûr que l'Espagne a vraiment fait savoir qu'elle était ouverte. Le gouvernement a lancé une grande campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux, en plusieurs langues, avec ce slogan « Vous méritez l'Espagne ».
Il faut dire, Henri, que l'enjeu est vraiment de taille pour le pays.
Oui, évidemment, c'est 12-13% de la richesse du pays, 13% des emplois. Le secteur, vous le savez, est sinistré depuis plus d'un an. L'Espagne, voilà, c'est une économie de service et certaines régions ne vivent que de cela. Les îles Baléares, les îles Canaries, en Catalogne, c'est extrêmement important. Alors forcément, donc à Barcelone, lundi, les professionnels du tourisme étaient vraiment soulagés de savoir que ça y est, l'Espagne était complètement rouverte. Et j'ai discuté de tout ça avec la gérante d'un restaurant, El Gallito. C'est intéressant, elle a 30 employés et ça y est, elle n'a plus aucun de ses employés en chômage partiel. Elle s'appelle Malou Gomez.
Le tourisme est très important et Barcelone en a vraiment besoin. La ville a beaucoup souffert, alors c'est bien que les gens puissent enfin venir. Ça nous donne du travail, moi je peux embaucher du personnel, c'est super pour tout le monde. Mais la compétition sera rude, le Portugal est en pleine croissance, on aura de la concurrence.
On entendait tout à l'heure ces touristes qui disaient c'est formidable, tout est rouvert. Vraiment tout est rouvert à part les discothèques, et à quelle heure il y a un couvre-feu ou pas?
Oui, tout est rouvert, il n'y a plus de couvre-feu, plus aucune restriction de mobilité. Les restaurants, les commerces, la culture, tout est ouvert. La seule chose voilà, qui nous rappelle que le Covid est encore là, c'est que le masque est encore obligatoire, même à l'extérieur. Ça peut changer très vite. Et même les boîtes de nuit, certaines régions annoncent qu'elles vont commencer à les ouvrir à la fin du mois de juin.
Alors du coup, la règle pour venir en Espagne, c'est quoi en ce moment ?
C'est assez simple. Si vous êtes vacciné, eh bien vous pouvez venir n'importe qui, issu de n'importe quel pays au monde, mis à part l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, peut venir sans le moindre test PCR. Si vous avez eu le Covid lors des 6 derniers mois et que vous avez un certificat de votre médecin, c'est pareil, pas besoin de test. Et pour les autres, un test antigénique suffit. Un test antigénique fait dans les 48 dernières heures. Donc, vous le comprenez, l'Espagne a quasiment rouvert grande ses portes, mis à part quelques exceptions. Voilà, tout le monde est le bienvenu en Espagne.
Et on comprend mieux pourquoi, Henri, vous me le disiez, l'Espagne fait carton plein dans certaines régions. Il y a un élément qui ne trompe pas, c'est le nombre de liaisons aériennes.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui considèrent que l'avion, ça pollue. Mais cet été, eh bien, il y aura autant de vols à destination des îles Baléares qu'à l'été 2019. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et on le sait d'ores et déjà, la Costa Brava, les îles Baléares sont presque déjà complètes. Il y a déjà beaucoup de monde qui veut profiter de ce soleil espagnol. Beaucoup de gens issus des pays du nord de l'Europe. Il y a un seul bémol dans tout ce panorama. Eh bien, il vient du Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni considère toujours l'Espagne comme une zone à risque. Et concrètement, un Anglais qui vient en Espagne, eh bien, au retour, il doit faire une quarantaine. Et ça, c'est un problème pour l'Espagne, puisque le Royaume-Uni est le premier pays émetteur de touristes en Espagne.
Merci beaucoup, Henri de la Guérie. On va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver notre correspondante Isabelle Horry. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, on le disait à l'instant avec Henri de la Guérie, il n'y a pas que l'Espagne qui attend avec impatience les touristes. Il y a aussi la Grèce, l'Italie et puis évidemment la France. Ces pays comptent bien sur le certificat sanitaire européen pour rendre les déplacements plus simples à partir du 1er juillet. Concrètement, ce certificat sanitaire européen, comment ça va marcher ?
Alors en fait, c'est un peu un casse-tête pour les utilisateurs et pour les journalistes aussi, hein, ce certificat, parce que entre le niveau européen et celui des pays, on ne tient pas toujours le même discours. On va donc essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors, je commence avec ce qui est certain. Cet été, en Europe, vous pourrez utiliser votre certificat, votre passe enregistré en France sur l'appli Tous Anti-Covid quand vous voudrez traverser une frontière. Et si vous partez à l'étranger, eh bien vous croiserez sûrement des touristes d'autres pays avec le même système sur leur téléphone. Ça, c'est ce qui est 100% sûr. Tous les pays européens ont adopté le même outil avec la même technologie et il va être reconnu dans toute l'Europe comme fiable.
Et donc, avec cet outil en main, je passerai les frontières sans problème en Europe ?
Eh bien, c'est là que ça se corse, Fabienne. C'est pas si simple. Alors ça, ce que je vous ai dit, c'est ce que veulent la Commission européenne et le Parlement européen. Eux, ils disent, vous êtes vacciné avec l'un des vaccins homologués en Europe depuis plus de 2 semaines, vous êtes guéri depuis moins de 6 mois, vous passez, et sinon, vous devez faire un test PCR ou un test antigénique avant le départ, et c'est tout. Écoutez la satisfaction du commissaire européen Didier Reynders cette semaine au moment du vote sur le certificat au Parlement européen.
Je suis très heureux avec vous de pouvoir constater cette véritable amélioration pour les citoyens européens et le droit fondamental à la libre circulation qu'ils vont pouvoir à nouveau exercer de manière beaucoup plus simple à travers l'outil que vous allez mettre en place. J'espère que dès le 1er juillet, tous les citoyens européens se rendront compte que le travail que nous avons accompli permet réellement de faciliter leur vie quotidienne.
Et donc, quand on écoute Didier Reynders à l'instant, bah, ça a l'air simple et acté, Isabelle.
Ouais, je suis d'accord, sauf qu'en réalité, Didier Reynders joue un peu sur les mots. L'outil sera en place, mais la manière dont il sera utilisé, elle va dépendre des États. L'Europe fait des recommandations. Les États ont pris l'engagement d'essayer de les suivre. Mais comme ce sont eux qui sont compétents, responsables en matière de santé, chacun d'entre eux peut faire des ajustements. Alors, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, les personnes qui ont eu le Covid doivent faire un test pour entrer en France. Est-ce que ça va changer le 1er juillet? On ne sait pas. La Grèce ou la Belgique ne veulent pas d'un test antigénique. Il faut un PCR pour entrer. D'autres pays comme la Finlande sont encore complètement fermés aux touristes. On ne sait pas ce qu'ils feront le 1er juillet. Puis pour la Hongrie, la Grèce ou l'Espagne, donc, eh bien, eux, ils acceptent aussi les vaccinés qui ont reçu des injections de produits russes ou chinois. Alors voilà, normalement, il y aura un avertissement sur votre certificat qui vous préviendra que ce n'est pas un laissez-passer et qu'il faut bien vérifier les conditions précises de votre destination. Faites-le surtout.
Ouais, merci du conseil. Moi, je pars vers la Suède. J'avoue que je n'ai pas encore regardé pleinement les conditions. On a aussi beaucoup parlé du prix des tests, très élevé dans certains pays, gratuit en France. Mais ben voilà, justement, ça peut coûter jusqu'à 100 euros, voire 200 euros en Suède, par exemple. Est-ce qu'il y aura une harmonisation européenne cet été ?
Non, parce que la sécurité sociale aussi, c'est national. Alors là aussi, chaque État garde la main. Et comme ça coûte cher, les tests PCR, toutes les capitales n'ont pas la même ligne pour les remboursements. Mais bon, quand même, la Commission européenne a débloqué 100 millions d'euros pour aider à faire baisser le prix. Et puis, la recommandation de Bruxelles, hein, c'est de reconnaître aussi les tests antigéniques qui, eux, ben, ne coûtent que quelques euros. La France et l'Espagne l'ont fait, par exemple, pour faciliter la vie des touristes.
Un dernier mot, hors de l'Union européenne, est-ce qu'il devient plus facile de voyager ?
Bah là aussi, c'est du cas par cas. Les Européens veulent ouvrir aux vaccinés du reste du monde, mais ils tiennent aussi compte de la réciprocité. C'est-à-dire, est-ce que le pays d'origine a, lui, ouvert aux vaccinés européens ? Ça reste compliqué avec les États-Unis, par exemple. Les Américains peuvent venir en Europe, mais leurs frontières restent fermées aux touristes étrangers, ce qui agace Bruxelles. En tout cas, comme pour les voyages en Europe, mieux vaut là aussi vérifier précisément ce qu'il est possible de faire ou pas avant de choisir sa destination.
Merci beaucoup Isabelle Horry. Comme le disait au début de cette émission, Cyril Delamorinerie et Simon Rubin qui vont sillonner l'Europe pour l'euro, ce sera déjà un bon test, on va dire, pour voir comment on circule
ouais,
dans cet espace. Merci beaucoup.
À bientôt.
Europe 1.
À suivre, dernière ligne droite à Roland-Garros. On va retrouver Johanna Chabas qui va nous faire découvrir le tournoi côté coulisses. Elle a même fait du paddle cette semaine.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Et direction pour terminer Roland-Garros, à la veille de la fin du tournoi avec, dans une heure maintenant, la finale dames et demain ce sera la finale hommes. On retrouve, comme la semaine dernière, Johanna Chabas qui chaque soir dans le 18-20 vous fait découvrir les coulisses du tournoi. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Toujours en forme au bout de 15 jours non-stop sur la terre battue?
Je vous avoue que mes cernes se sont un peu creusées, la fatigue est bien présente, mais bon, se réveiller tous les jours pour couvrir les coulisses de ce tournoi, ça reste une grande chance. Et puis avec ce soleil magnifique, ça reste un plaisir.
Et puis nouveauté en plus depuis mercredi, la jauge a augmenté, du coup ça fait beaucoup plus de monde dans les allées, beaucoup plus d'ambiance.
Oui c'est ça, c'est impressionnant, il y a plus de 13 000 spectateurs maintenant, donc par rapport aux 5 000 précédents, ça n'a rien à voir. Les allées sont pleines de monde, c'est devenu beaucoup plus difficile pour moi de me faufiler. Et puis avec cette nouvelle jauge, ça fait surtout beaucoup plus de public dans les gradins. Donc en termes d'ambiance, ça change tout et c'est beaucoup plus puissant. Le cours Philippe Châtrier qu'on entend juste là peut maintenant accueillir 5000 spectateurs. C'est 5 fois plus qu'avant.
Alors du coup, comme cela se resserre sur le central, on entend l'ambiance, là vous avez découvert des activités où vous avez d'ailleurs donné de votre personne.
Oui, j'ai enfilé ma tenue de sport. En fait, vu qu'on est en fin de tournoi, il y a beaucoup moins de matchs et donc des cours restent disponibles. Et sur l'un d'eux, un terrain de padel a été installé pour faire découvrir la discipline, une sorte de mélange entre le tennis et le squash. Le cours est en fait entouré de grillages et de vitres. Donc j'ai essayé, j'ai joué en double avec Adrien Maigret, le numéro 3 français quand même.
Excusez du peu, oui.
Et voilà, je fais qu'avec les meilleurs moi. Et après avoir été menée 5-0, je suis très fière, très très fière de vous dire qu'on a fait une remontée spectaculaire. Et qu'on a remporté le match 7-5. Donc j'ai évidemment demandé l'avis d'Adrien Maigret, mon partenaire de jeu, sur ma prestation.
Bah, t'étais parfaite, il y a des spectateurs qui m'ont dit ils ont cru que c'était toi la championne et que moi je commençais. C'est ça qui est bien au padel aussi, c'est que de toute façon, à tout niveau, on s'amuse, on se régale et justement, les progrès arrivent très vite. Il n'y a pas besoin d'avoir de faire 10 leçons pour commencer un peu à maîtriser le jeu au padel.
Très flatteur, hein, Adrien Maigret.
Toujours, je garde les meilleurs passages. Mais l'idée derrière cette initiation, c'est de passer par le padel, qui est très, très à la mode et donc assez ludique pour attirer de nouveaux pratiquants, des jeunes, parce que le nombre de licenciés de tennis baisse en fait chaque année.
Et puis, au fil de la semaine, puisque vous nous faites découvrir donc les coulisses, vous avez découvert de drôles de spectatrices.
Oui, j'ai appris qu'à Roland-Garros, il y a des ruches, 9 pour être précise. Elles sont juste à côté du cours Suzanne Lenglen, sur les toits d'un restaurant. Donc le public est parfois assis juste à côté des abeilles sans s'en rendre compte. Et donc, il y a du miel de Roland-Garros, forcément. Le goût change chaque année, selon Laurent qui s'en occupe.
Cette année, il était plus comme de la crème brûlée, un peu. Alors que l'année d'avant, c'était plus un goût de menthe. Alors peut-être qu'elles ont été boire quelques menthes à l'eau, c'est possible. Hein. Mais l'année dernière, c'est crème brûlée plutôt caramélisée. Ce qui est logique aussi en même temps, puisqu'on a eu beaucoup de chaleur. Donc, quelque part, le miel était peut-être un peu chaud.
Alors, ce miel, il n'est pas commercialisé,
vous l'avez
c'est
goûté
pas le but.
Non.
Alors, non, j'ai
non.
pas eu
pas
le droit encore, mais on m'a promis un pot à la fin du tournoi. Donc, je vais aller le récupérer. Mais du coup, il n'est pas commercialisé, c'est pas le but. Il est offert aux personnes qui participent au tournoi, comme les ramasseurs de balles, les juges de ligne. En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser le public à la biodiversité.
Et puis, vous avez aussi découvert que parmi les personnes qui travaillent à Roland-Garros chaque année, il y a, ça peut surprendre, des montagnards. Ils font des centaines de kilomètres chaque année pour venir sur les terrains de Roland-Garros pendant la quinzaine.
Oui, ils sont une trentaine. Normalement, ils sont moniteurs de ski, ils travaillent sur les tire-fesses, les remontées mécaniques. Et là, vu que la saison à la montagne est finie, ils viennent compléter leurs revenus à Roland-Garros. Et parmi cette trentaine de montagnards, la moitié vient du même village, Saint-Sorlin-d'Arves, en Savoie. À peine 300 habitants. Et c'est là d'où vient Yanis, professeur de ski.
Il y a une mafia. Non, nos montagnes, c'est des petits villages, on se connaît tous. C'est un peu les bruits de couloir, on parle, on discute. Et puis après, petit à petit, un montagnard vient, deux montagnards, trois montagnards, et puis il y a la moitié du village.
Donc on imagine effectivement qu'il doit y avoir une filière, puisqu'ils viennent visiblement tous du même village, du même secteur. Pourquoi ces montagnards sont si recherchés ?
En fait, c'est des profils assez atypiques qui ont l'habitude de travailler en équipe, mais surtout à l'extérieur, alors qu'il peut faire très très froid. Donc dans n'importe quelles conditions, ils sont à l'aise. Et donc pour un travail de préparateur de terrain, c'est l'idéal.
Bon, et puis je le disais, on arrive au moment des finales. La coupe, elle est où, la coupe des mousquetaires ?
Eh bien, elle est cachée. Même les équipes presse de la Fédération française de tennis ne savent pas où elle est. J'ai appris qu'il y a en fait deux modèles. Il y a la coupe des mousquetaires, l'historique, 14 kilos d'argent. C'est cette coupe que le vainqueur brandit à la fin et son nom sera gravé dessus par la suite. Mais en fait, cette coupe, elle reste au stade de la Porte d'Auteuil. Le joueur, lui, ne repart qu'avec une coupe plus petite. Seul Rafael Nadal a une réplique identique de la coupe des mousquetaires qu'il a remportée pour sa 10e victoire du tournoi de Roland-Garros.
Merci beaucoup Johanna Chabas et on verra effectivement qui ce week-end va brandir cette coupe de nouveau. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Simon Rubin, Cyril de la Morinerie, Benjamin Peter, Henri de Laguéry, Isabelle Horry et Johanna Chabas. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Cyril Pascal pour la réalisation. Capucine Patouillet et Christopher Filoc pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, 14h, clap. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bien écoutez, nous aussi aujourd'hui, on va parler tennis. C'est d'actualité, Roland-Garros oblige. Et puis surtout, mercredi prochain sort un film qui s'appelle 5e set. Alors, on va essayer de comprendre et de vous raconter comment le tennis est représenté sur grand écran depuis des années maintenant. Vous verrez ça. Quant au film de ma vie aujourd'hui, c'est l'acteur Benjamin Laverne qui a accepté de se confier, de nous raconter ses plus grands souvenirs de cinéma. Voilà un beau programme.
Merci Mathieu et à tout de suite.
Fabienne Lemoelle sur Europe 1.